les dieux sont mis en scène dans leur vie courante. Et cette mise en scène est, dans ses moindres détails, formidablement bien réussie.
Alors, ce qui est difficile à comprendre pour nous, c'est que ce sanctuaire d'Issée, on ne peut pas le visiter.
C'est vrai, il y a des raisons très précises à cela. Dans le sanctuaire, le pavillon central, donc entouré de quatre enceintes, est la résidence de la divinité. Et déranger cette divinité pourrait provoquer sa colère. On la laisse donc tranquille. Et seuls quelques prêtres sont habilités à servir cette déesse, à s'approcher d'elle pour lui offrir ses repas ou faire des offrandes. Dans les deux grands sanctuaires, les pèlerins, comme vous et moi, peuvent simplement franchir la première enceinte du sanctuaire pour faire leur dévotion, mais pas plus.
Donc ce qu'on voit finalement, ce sont des palissades.
On ne voit que des palissades et on voit aussi les portes. Mais ces portes sont ouvertes, donc on a l'impression que le regard peut pénétrer. Les portes, les battants des portes sont ouvertes, mais ces portes, il y a des tissus blancs, des voiles blancs qui sont là et qui finalement vous empêchent de voir. Et seul le vent, lui, peut permettre d'apercevoir un petit peu quelque chose. Mais de l'extérieur, donc on voit les palissades et on voit surtout le faîtage des bâtiments. Donc on sait que la déesse est là, qu'elle est derrière, et effectivement on se dit, mais comment sont ces bâtiments ?
Aujourd'hui comme hier, les touristes ne poussent point jusqu'à Issée. Tout le monde vous le dira, il n'y a rien à y voir. J'y ai pourtant appris beaucoup de choses.
Le journaliste globe-trotteur Marcel Monnier, 1899.
Le sanctuaire d'Issée est mystérieux. On l'a dit, les fidèles ne peuvent pas voir le cœur des monuments. Les visiteurs, en fait, sont tenus à l'écart avec par des palissades en bois. Mais vous, Jean-Sébastien Cluzel, pour ce livre consacré au sanctuaire d'Issée et au récit de la 62e reconstruction, vous avez pu visiter les lieux.
Oui. Alors nous avons eu cette chance extraordinaire. Les autorités religieuses nous ont autorisé à franchir, accompagnés d'un prêtre, les quatre enceintes, les unes après les autres. Quand je dis nous, ce sont les 11 auteurs de cet ouvrage. Nous avons donc pu observer le sanctuaire extérieur depuis l'intérieur et nous avons eu l'honneur d'admirer le pavillon central, la résidence, la maison de la déesse Toyuke Omikami, la déesse de la nourriture. Je donnerai une petite précision importante. Notre visite n'était pas qu'une simple visite touristique. Elle s'est inscrite dans un rituel très particulier qui a lieu à un moment très particulier lui aussi. Le sanctuaire dans lequel nous sommes entrés est le sanctuaire ancien. Et nous avons pénétré dans ce sanctuaire à un moment où la divinité n'y est plus. Donc après son transfert dans le nouveau sanctuaire. Les bâtiments que nous avons vus avaient donc perdu une grande partie de leur sacralité et notre visite n'a donc pas dérangé cette divinité.
Mais même si moi demain j'ai envie d'aller voir le sanctuaire et que la divinité n'est pas là, on ne va pas me laisser rentrer. C'est vrai que tout cela est quand même tenu très secret.
C'est sûr. Non, c'est sûr.
C'était quand même une chance de pouvoir...
C'était une chance et il faut beaucoup de contacts et vraiment insister, expliquer. Ça nous a pris énormément de temps de pouvoir faire cette procession.
Donc vous êtes rentré dans ces sanctuaires, pourtant c'est tenu secret.
Alors oui, mais je crois que ce secret peut s'expliquer assez simplement. D'abord, il est difficile d'ouvrir au public un chantier, quel qu'il soit, pour des raisons de sécurité. Et ici, plus qu'ailleurs, puisque les édifices doivent être d'une pureté totale lorsque la divinité va prendre possession des lieux, les matériaux anciens doivent aussi rester purs pour être réutilisés. N'oublions pas que les charpentiers travaillent vêtus de blanc. Alors, une anecdote qui est assez parlante, le chaume se détériore très vite. On a beaucoup de difficultés, sans aucun entretien, à le faire durer pendant 20 ans. À Issée, les toits de chaume, au bout de 20 ans, sont complètement percés. Quand les prêtres s'aperçoivent que le chaume est trop détérioré ou que l'écoulement des eaux pluviales va entraîner l'écroulement de l'édifice, il faut parfois intervenir. Eh bien, pour ne pas prendre le risque de déranger les divinités, les charpentiers étaient obligés de se déguiser en corbeaux pour effectuer ces réparations. Les secrets sont là, non pas pour faire du secret, mais par respect finalement de la tranquillité de la divinité. Toute cette reconstruction est ponctuée par des rituels permanents. Il y a 35 rituels qui ponctuent ce rituel gigantesque que l'on appelle le Shikinen Sengu, qui est toute la reconstruction. Et chacun d'eux marque un moment précis de la reconstruction. La reconstruction elle-même, elle dure 8 années. Et les 35 rituels dont je parle s'échelonnent durant ces 8 années. Le premier est l'entrée dans la montagne. Donc il y a un rituel pour que les charpentiers entrent dans la montagne et qu'on puisse commencer l'abattage du bois. L'abattage du premier arbre fait aussi l'objet d'un autre grand rituel, donc où il y a beaucoup de prêtres, où la population est conviée pour assister à ce rituel. Puis ensuite, il y a, une fois qu'on a abattu les arbres, il faut les transporter. Donc pour le sanctuaire intérieur, on transporte les arbres par le fleuve. Donc les hommes descendent dans la rivière, ils ont de l'eau jusqu'à la ceinture, voire jusqu'aux épaules, et ils tirent, ils remontent le courant de la rivière en tirant les billes de bois. Donc c'est toute la population des environs du sanctuaire qui participe à cet événement. Un autre rituel spectaculaire est le changement des galets. Les sols des sanctuaires sont recouverts de galets qui sont noirs dans certaines parties et blancs dans d'autres. Eh bien, pour changer ces galets, la population se met en ligne et où chaque personne est invitée à remplacer un seul galet. Alors ça aussi, c'est un rituel, une grande cérémonie. Et puis après, dans la reconstruction, en plus petit comité, les rituels rassemblent principalement les artisans et les prêtres. Donc ils se rassemblent entre eux, ils mettent leur costume de cérémonie et on a un rituel pour l'érection du premier poteau. Puis la pose du faîtage aussi marque un moment très particulier dans la construction. Ensuite on a la passation du chantier, donc des charpentiers au couvreur, qui sont deux corps de métiers différents. Donc quand ils se passent ce chantier, les prêtres viennent, il y a une cérémonie. Et comme ça toute la construction fait vraiment partie des rituels, donc d'un ensemble religieux. À la fin, le dernier rituel en rapport avec la construction, c'est la pose des portes du palais, c'est-à-dire de la résidence de l'empereur, et des serrureries qui viennent finalement annoncer que le chantier est terminé.
Ce rituel de reconstruction, est-ce qu'il est uniquement pratiqué au sanctuaire d'Issée ?
Alors, dans cette forme complexe et totale, oui.
C'est unique au monde.
C'est unique au monde. Oui. Issée est le dernier grand sanctuaire Shinto à être cycliquement reconstruit. On a parlé du Shikinen Sengu, donc du rituel du transfert. Ce rituel que l'on appelle le Shikinen Sengu, il n'est pas pratiqué qu'à Issée. Il est pratiqué dans d'autres sanctuaires au Japon. Mais ce rituel n'implique pas la reconstruction. Il n'y a que à Issée où aujourd'hui la reconstruction est impliquée dans le sanctuaire.
En conclusion, le sanctuaire d'Issée, même s'il n'y a rien à voir, c'est un lieu à découvrir.
Ah ben c'est un lieu, je vous engage à aller le visiter, à aller vous y recueillir. C'est un lieu extraordinaire pour réfléchir et pour réfléchir à comment conserver le patrimoine.
Voilà donc le sanctuaire d'Issée au Japon avec Johan Dusset, l'émission Monumentale, notre partenaire de la radio suisse, ici en compagnie de Jean-Sébastien Cluzel, qui est l'auteur, qui a dirigé l'ouvrage collectif Le sanctuaire d'Issée, récit de la 62e reconstruction.
Un jour dans l'histoire.
Jusqu'à 14h30 sur la première.